Oui, bonjour, Marianne d'Avignon. Ce matin, dans ma voiture pour aller travailler au collège, j'allume France Inter pour profiter du trajet, afin d'écouter avec plaisir et attention le 7-9 de Stéphane Paoli et de son équipe. À 7h40, ce dernier nous informe que le studio est envahi par des manifestants et qu'il prend de ce fait la responsabilité de couper l'antenne. Dans ce contexte de mouvements sociaux annoncés pour cette semaine, nous devions nous attendre à différentes manifestations lors desquelles chacun cherche à se faire entendre. Ceci étant, pour avoir fait partie des milliers de profs en grève plusieurs semaines en mai et juin 2003, je voulais dire aux grévistes « envahisseurs » entre guillemets de ce matin, vive la désobéissance civique, chère à Lucie Aubrac. Peu importe parfois les moyens mis en place quand on ne peut plus se faire entendre normalement. Mais ne vous trompez pas de cible, France Inter et certaines émissions, en particulier comme le 7-9 ou là-bas si j'y suis, ont été et restent des vecteurs fiables pour nous permettre d'exposer nos points de vue et pour les relayer. À bon entendeur. Au revoir.
Oui, je n'ai pas pu vous appeler avant, mais qu'ai-je entendu hier matin en me réveillant? Qu'est-ce que c'était que cette mascarade, un intermittent de la politique sur France Inter, ce Jean-François Copé, là où je ne sais quoi, qui a monopolisé l'antenne pendant près d'un quart d'heure? Je suis consterné.
Voilà, bonjour, c'est Olivier, je suis vraiment assis, je suis dans ma voiture là, et je viens d'entendre le responsable de France Inter parler de commandos qui avaient envahi la radio, alors que je pense que les intermittents du spectacle ont d'autres raisons de s'inviter à prendre la parole sur une antenne comme France Inter, qui est une antenne encore publique, je l'espère. Et j'ai trouvé vraiment les propos de ce sous-directeur, ou je ne sais pas qui, mais qui avait l'air d'avoir la responsabilité, d'une violence inouïe dans les propos qu'il tient. Monsieur, il faut faire attention aux mots que vous employez, là, parce que c'est grave de parler de commando. Merci, au revoir.
Oui, bonjour, Karine Valade, d'AC Agir Ensemble contre le chômage. Aujourd'hui, nous avons fait un rassemblement au Zénith devant le MEDEF et après, nous sommes allés occuper la mairie du Pré Saint-Gervais, puisque au Pré Saint-Gervais, depuis samedi, il y a 20 sans-papiers, dont une douzaine qui sont mis en grève de la faim. Donc, rencontrer Monsieur Claude Barthelone et nous avons essayé de négocier. Et, visiblement, la négociation se passait bien quand subitement est arrivé la BAC, les CRS, etc. Ils nous ont sortis de la mairie du Pré Saint-Gervais très violemment. Moi, moi-même, ma tête a frappé plusieurs fois le sol par terre. Des copains se sont fait violenter. On était une trentaine à occuper la mairie du Pré Saint-Gervais. Donc, on a encore les preuves de la gauche caviar dans tous ses exploits. Là, nous sommes en soutien au 29 rue André Joanneau au Pré Saint-Gervais. J'ai plus beaucoup de batterie, mais en tout cas, merci, au revoir.
Alors ce matin, nous aurons encore toute une litanie d'adorateurs de Ray qui va le soutenir et le porter au nu puisqu'il défend les grèves de tous les incapables, tous les bornés, tous ceux qui attendent tout de l'État, tous les RMistes, chômeurs professionnels, RMistes fraudeurs. À propos, on n'arrête pas un seul trafiquant de drogue ou de voiture ou de étranger de l'Ouest ou de l'Est, qu'il ne soit au RMI ou aux assurances sociales ou au chômage. Hein, ça, c'est une obligation. Et naturellement, tout ça, c'est payé par les pauvres malheureux qui, eux, payent des impôts, c'est-à-dire à peine un Français sur deux, un Français qui entretient l'autre, qui en réclame toujours plus, toujours plus, toujours plus. 3 500 suppressions d'emplois sur 168 000, et ça mérite de paralyser la France pendant toute une journée, n'est-ce pas? Ah là là, et voilà où on en est dans cette magnifique société qui ne jure que par les services publics payés par les autres, bien sûr.
C'est la grogne d'un éducateur spécialisé.
Je viens d'écouter, là j'écoute les informations sur France Inter. Alors, je précise, je ne suis pas fonctionnaire. Mais il serait bon que quelques personnes rappellent aux journalistes, ou à ceux qui se prétendent tels, que ce sont les porcs qui grognent. Et d'y parler de la grogne des fonctionnaires, c'est considérer ces gens-là comme des porcs. Voilà, c'est simple, alors qu'ils fassent attention à ce qu'ils disent, je ne sais pas. Tu as sans doute des relations avec ces journalistes, si on peut les appeler ainsi. Alors, passe-leur un petit mot, dis-leur qu'elles fassent attention à ce qu'elles disent. Voilà, c'était Pierre de Lyon. Salut.
La dernière trouvaille du gouvernement relayée par les médias, c'est qu'on ne parle plus, ou on va moins parler de fractures sociales, d'inégalités et de pauvreté. On va parler de grogne, de sinistrose et de désespérance. Ça me rappelle certains régimes politiques plutôt sinistres qui, en d'autres temps, assimilaient les opposants politiques et les contestataires aux malades mentaux. Quand va-t-on véritablement en revenir au seul problème qui préoccupe les Français, le chômage? Le chômage massif, cauchemar social qui ronge la société depuis 30 ans, avec toutes les conséquences qui en découlent. Je cite les bas salaires, la précarité, la désyndicalisation, la destruction de familles entières, le surendettement, la délinquance, la ghettoisation et la lepénisation de quartiers entiers, etc. Quand va-t-on enfin se décider à mettre en place une vraie politique de lutte contre le chômage, promesse maintes fois annoncée par la droite et jamais tenue, avec un programme, des objectifs et des résultats? D'abord, quand est-ce qu'on cessera de tricher avec les chiffres du chômage? Pourquoi les RMistes ne sont-ils pas comptabilisés comme chômeurs, alors qu'ils sont contraints pour la plupart de chercher du travail? Ils sont quand même 1 200 000, s'ajoutant aux presque 3 millions de chômeurs. Pourquoi considère-t-on le chômage comme une simple conséquence indésirable, un dommage collatéral regrettable de l'économie libérale? Pourquoi ce gouvernement ne décrète-t-il pas que la lutte contre le chômage doit être une cause nationale, primordiale et prioritaire sur tout le reste? Quand on fait la guerre, on ne se demande pas qui va payer ou combien ça va coûter. On la fait, on trouve l'argent, car c'est vital pour le pays. Dans le même temps, on évite de créer du chômage, comme le fait le gouvernement Raffarin. Un poste de fonctionnaire supprimé, c'est un chômeur de plus à l'avenir.
Voilà, ça grogne sur le répondeur de la Bastille. Les incapables, les bornés, les rémistes fraudeurs qui n'ont évidemment que ça à faire, écoutent cette émission lamentable et consternante et utilise le grogneur au 01 56 40 37 37. C'est le grogneur de la Basse, j'y suis. Et c'est tous les jours comme ça. Et quand est-ce que ça arrêtera? Est-ce que c'est pas une honte d'entendre des choses comme ça sur une radio de service public? Eh ben, peut-être. Et jusque là, ça va. C'est comme dans l'histoire du type qui tombe du building. Vous savez, il passe à chaque étage et il dit, jusque là, ça va. Aujourd'hui, ça va. On continue notre balade au Venezuela, toujours sur la réforme agraire. Vous dites, oh là là, mais quel rapport entre chez nous et là-bas? Je vais essayer de vous trouver au moins, deux ou trois raisons de faire une relation entre ce qui se passe au Venezuela, en Amérique latine, et ce qui se passe chez nous. Auparavant, d'autres messages sur le répondeur de là-bas, si j'y suis. Le grogneur de là-bas, si j'y suis, 01 56 40 37 37.
Allô, bonjour Daniel, Véronique, je suis institutrice chargée de direction. Je ne suis pas chef d'établissement et j'ai donc le droit de grève. Pour la première fois en 20 ans de carrière, l'administration centrale, par le biais d'Internet, a fait des pressions pour essayer de décourager les directeurs d'école de se mettre en grève. Voilà, je trouve ça grave dans un pays qui est censé être démocratique. Au revoir.
Demain, maman, elle va à la manifestation.
Eh oui, salut, c'est Isa, j'appelle du Gers, pour vous dire que demain, jeudi, je serai en tant que fonctionnaire en grève. Hein. Pour vous dire aussi qu'en tant qu'enseignante, je manifesterai. Et pour vous dire enfin qu'en tant que prof de PS, je me mettrai vraiment en colère parce que là, c'est trop. Dans la nouvelle loi d'orientation, l'éducation physique et sportive n'est plus un minimum obligatoire à garantir à tous les élèves. L'éducation physique devient facultative au brevet des collèges et rien ne dit qu'elle restera obligatoire pour tous. Et que deviendront nos élèves? On ne sait pas. L'épanouissement dans la tête et le corps, on s'en fout. leur santé, on s'en fout. L'accès pour tous à la culture corporelle, on s'en fout. Mais moi, non, ça m'est pas égal. Alors, je suis en colère, très en colère. Et j'espère que tout le monde sera comme moi. Ici, dans l'Académie de Toulouse, on défilera, sifflé au cou et avec un masque blanc sur le visage pour montrer qu'on est vraiment en colère. D'abord à 11h à Auch, puis à 14h15 à Toulouse. Allez, c'est maintenant qu'il faut se bouger pour nos corps. Pas d'éducation sans éducation physique. Pas d'éducation sans éducation physique. Pas d'éducation sans éducation physique. À bientôt.
Bonjour, ici Michel à Gérardmer. Aujourd'hui, ça fait 303 jours que Madame Benedetta Berdica, réfugiée albanaise avec ses deux enfants, est maintenue en situation irrégulière par Monsieur le préfet des Vosges et Monsieur de Villepin, qui refusent de lui délivrer une carte de séjour en dépit des instructions formulées le 22 mars 2004 par Monsieur Sarkozy, alors ministre de l'Intérieur. Il apparaît nettement que Madame Berdica et ses enfants sont les victimes innocentes de luttes d'influence au sein de l'UMP. Tant qu'ils sont otages, nous le sommes aussi. Ne les oublions pas. Je vous remercie d'avoir déjà diffusé ce message plusieurs fois. Bon courage et mes amitiés. Au revoir.
Alors Ernest-Antoine, tu te demandes où est le service minimum que Jacques Chirac avait promis ? Mais Ernest-Antoine, tu crois encore aux promesses de Jacques ? Il y a au moins une chose que nous avons en commun, toi et moi. Ce sont les promesses non tenues que Jacques nous a faites. C'est Claire du Luberon.
Bon, c'est Jacques de Saint-André-de-Roquepertuis. Bon, j'ai entendu ce matin notre ami le baron Lénès qui trouve choquant que les syndicats en France, et la plupart des gens, je le souhaite, demandent l'égalité des salaires. Alors, à mon avis, le baron doit être foulé sexuel. Faudra essayer de contacter son épouse pour essayer de le dégorger, parce que alors il est en train de péter le bouleur, le pauvre vieux. Il est vraiment temps qu'il passe la main. Allez, ciao Daniel, et puis merci pour ton émission. À bientôt.
Je voudrais dire au baron Salière, qui cherche où est passé le service minimum, que je l'ai trouvé. Il est sur le bout de mon nœud.
Bonjour. Se mobiliser pour soutenir solidairement Florence Aubenas et Hussein Al-Saadi aujourd'hui, c'est pas oublier tous les autres disparus des guerres ou de la guerre d'Irak, mais c'est être solidaire d'une équipe qui rencontre de manière sensible, et je crois, et nous croyons très professionnelle, la complexité des événements. Parmi des journalistes, d'autres journalistes bien sûr, qui savent aussi témoigner, chercher à comprendre, que ce soit en Irak, que ce soit en Tchétchénie, au Congo ou ailleurs. Alors deux choses, critiquer les médias, c'est une chose qui nous paraît totalement indispensable, mais aujourd'hui, ici, affirmer la nécessité d'informer en allant sur le terrain, c'est aussi une évidence. Et ça, il faut le réaffirmer, réaffirmer l'importance de l'information sur place, sur le terrain, dans le cadre des conflits, des guerres. Or, aujourd'hui, et particulièrement depuis quelques jours, quand on entend certains discours, certains propos, certains en remettent en cause cette importance, ce droit d'informer sur le terrain. Alors ce petit laïus, c'est simplement pour vous dire qu'à Grenoble, tout à l'heure, c'est une première initiative, et on espère tous qu'il y en aura d'autres, et très vite, en France. Initiative à 18h30, un comité qui est initié par des professionnels de l'information, des étudiants, rejoint par de nombreuses autres associations ou particuliers, citoyens, appelle un rassemblement au centre-ville, face à la SMAC, donc à Grenoble. Nous porterons des masques à l'effigie des deux disparus, et puis à 20h30, ce soir, toujours mercredi, à la maison des associations.
Salut CDD de Quimper, c'est pour signaler que demain, c'est un jour noir sur la planète, c'est l'investiture de George W. Bush. Ça va coûter plus de 100 millions d'euros, c'est-à-dire, comme on dit en Bretagne, pas mal de guenec. Les déshérités, ceux qui ont rien, ceux qui vivent un dollar par jour, apprécieront, et tous les démocrates aussi. Portez le deuil. Merci.
Bonjour, là-bas, si j'y suis. L'extrême droite à la trace. Pour souligner les saillies actuelles du leader du Front National, trait d'une forme d'esprit à géométrie invariable, prendre un point F et un point N et tracer l'extrême droite.
Qu'est-ce tal, vieux roi mort, qu'est-ce tal, hein, qu'est-ce tal, todo sigue igual. Non, todo no sigue igual. La guerra contra el latifundio, la democratización de la tierra.
Con el presidente.
Allá sí estoy.
La paz
la base et la cuisse.
La cuisse.
Uno de los temas de hoy es el tema de la revolución agraria. Aquí va a estar hoy un grupo de dirigentes campesinos.
Flight number two. Arriving from
República Bolivariana de Venezuela.
La base y Luis.
Bonjour.
Hola.
Hola, hola, hola. Comment vous appelez?
Donaïl.
Vous, votre mari a été abattu?
Si. El 4 de noviembre.
Le 4 novembre, oui.
Llegaron una gente en unos tractores.
Des gens qui sont arrivés en tracteur, des sicaires.
Que pertenecen a Central Matilde.
Donc c'était des tracteurs de la Central Matilde, de la sucrière d'à côté.
Y nosotros estábamos en el campo trabajando.
Nous étions dans les champs en train de travailler.
Llegaron con tractores, con rastres, y en esos momentos ellos arremeten contra nosotros. Nosotros no teníamos armas.
Donc ils sont arrivés pour nous battre.
Empezaron y nos dispararon y en eso lo matan a él. Pues,
et ils nous ont tiré dessus et en fait lui est tombé.
Eso fue por ahí, por esta parte aquí.
Juste là derrière.
Estábamos nosotros limpiando toda esa parte ahí.
On était en train de débroussailler là.
Mais alors, il y a eu une enquête?
Una encuesta policial, no. No, nadie en ese estaba el gobernador Lapi.
Non, c'était l'ancien gouverneur.
Escuálido, en contra del gobierno.
C'était un anti-chaviste.
Aunque uno quisiera que los agarraran.
Même
no
si on avait voulu faire quelque chose, on pouvait, c'était pas possible avec lui.
Donc personne n'a été arrêté. Les tueurs n'ont pas été arrêtés.
Agarraron al abogado y al ingeniero. Que ellos también venían con los sicarios.
Donc ils ont arrêté d'abord l'avocat et l'ingénieur qui étaient avec les sicaires.
Pero duraron un solo día, la juez los soltó.
Mais ils ont passé une journée en garde à vue et puis la juge les a lâchés.
El Chipiao, que así se llama el que le disparó a él.
Le garçon qui lui a tiré dessus s'appelle Chipiao.
Hacen como 15 días que lo soltaron, entonces ¿quién mató? Pues?
Ils l'ont lâché il y a 15 jours. Alors, qu'est-ce qui s'est passé là? Qui c'est qui tue?
Il l'a tué, il doit payer.
Oui, il doit payer.
Mon époux s'appelle Herman Escalona.
Mon époux s'appelait Herman Escalona.
Herman Escalona.
Oui.
Herman Escalona, on va lui dédier cette émission à Herman Escalona. Il fait partie de ces paysans du Venezuela, des leaders paysans qui se battent pour la terre, pour un lopin de terre et qui se font descendre comme ça par des sicaros, des sicaires, des tueurs engagés par des grands propriétaires. Cette histoire-là, on l'a vue un peu partout. Dans le monde, on la rencontre, cette histoire-là. On la rencontre très souvent en Amérique latine, sans doute plus dans d'autres pays d'Amérique latine comme le Brésil qu'au Venezuela, mais on la rencontre au Venezuela aussi. Pourquoi aujourd'hui? Eh bien parce que le gouvernement vénézuélien lance une vaste réforme agraire avec une volonté gouvernementale. C'est pas une affaire de charité, d'ONG, etc. Il y a une vraie volonté de lancer cette réforme agraire. Alors cette fois-ci, dans les actes, ça a d'abord été des décrets, des lois, et puis maintenant on passe aux choses sérieuses. Le président, le commandant Chavez a fait des déclarations très précises, rappelant qu'au dernier recensement, moins de 5% des propriétaires terriens du pays possèdent plus de 80% du total des biens fonciers. C'est quand même énorme, tandis que 75% des petits agriculteurs ne possèdent que 6% des terres. Tout est dit avec des chiffres comme ça. Aussi, le gouvernement vénézuélien se lance dans une répartition tout simplement plus équitable des terres. Les autorités ont déclaré avoir identifié plus de 500 ranchs, dont 56 de très grande taille qui sont laissés en friche. C'est les latifondios ou latifondia ou latifondium, c'est-à-dire ces énormes propriétés qui sont en friche. Et bien souvent, les propriétaires très arrogants de ces grands espaces sont incapables même de produire un titre de propriété. Alors on va dire, oh là là, nationalisation, socialisme, communisme, mais pas du tout. Le gouvernement du Venezuela le rappelle, le ministre de la présidence, Rafael Vargas, le rappelle, c'est une révolution atypique. Ils adorent répéter ça, une révolution atypique. Elle n'est ni socialiste ni communiste, car elle s'inscrit dans le cadre du capitalisme. C'est le gouvernement lui-même qui le dit. Mais elle est radicale et induit de profonds changements de structure économique. Voilà, j'insiste un peu lourdement là-dessus par rapport à tout cette hystérie qu'il y a dans les critiques et dans les observations d'observateurs qui n'ont rien observé sur ce qui se passe dans ce pays depuis quelques années. C'est simplement des réformes un peu radicales que ce gouvernement ose faire dans la plus totale légitimité, élu et réélu qu'il est depuis longtemps, et avec confirmation au mois d'août dernier, et avec des élections en octobre, tout récemment. Donc voilà ce à quoi nous nous intéressons aujourd'hui. On est toujours dans l'état du Yaracuy, et on est dans un tout petit village, un petit groupe de maisons avec des gens qui sont autour de nous, qui nous attendent, et on va parler de cette réforme agraire jusqu'à 18h là-bas si j'y suis, ou à Venezuela.
Presidente número 210, este domingo 9 de enero 2005. Un abrazo para todas y para todos. Bienvenidos nuestros invitados de hoy. Aló, presidente, en su nueva etapa. Aquí estamos, pues.
Alors voilà, c'est Allô Présidente, et Allô Présidente, c'est une émission qui a lieu tous les dimanches. Et qui est l'animateur de cette émission de télévision qui a lieu tous les dimanches? Eh bien, c'est Hugo Chavez, le président lui-même. Oui, il fait son émission de télévision. Et là, on est le 9 janvier, c'est il y a quelques jours. Il a repris son émission depuis son palais, depuis le palais présidentiel à Caracas. Écoutez-le, il chante, écoutez.
Non, todo no sigue igual. Alors, président a entrado.
Et voilà. Alors, ça lui arrive, il se met à chanter comme ça. Il entend un vieux boléro qui dit comment ça va, rien n'a changé. Eh ben non, dit Chavez. Beaucoup de choses ont changé dans ce pays. La preuve, d'ailleurs, cette émission Allô Presidente reprend, et nous allons nous lancer dans la révolution agraire, quelque chose de très important. Voilà ça.
Alors son émission dure quelques heures le dimanche, il est tout seul avec des amis, des invités, il chante de temps en temps, ça peut durer 3 heures, ça peut durer 4 heures, ça peut durer 5 heures ou 6 heures ou 7 heures. Évidemment, ça fait dire à beaucoup que ce gars est un peu cinglé et qu'il c'est un populiste, c'est tout à fait l'impression qu'il donne, mais en tous les cas, ça, il a un impact formidable, il est très populaire dans son pays, et l'air de rien, eh ben, il s'attaque à des choses très importantes, des choses absolument cruciales dans ce Venezuela. Là, la réforme agraire en fait partie. On sait toutes les raisons, l'exode rural, les inégalités, les chiffres absolument monstrueux de l'inégalité dans ce pays, pas seulement en ville, mais aussi dans le reste du pays, dans les campagnes et dans les exploitations agricoles. Là donc on est, je le disais, dans l'état du Yaracuy, et on est dans une petite ville, ville 3-4 000 habitants, qui s'appelle Comunare Rojo, et on fait une rencontre avec quelqu'un qui nous met un peu cette histoire quand même en perspective. Bien évidemment, et on s'en doutait, Hugo Chavez n'est pas sorti comme ça, brusquement d'un chapeau.
En privado con el presidente.
Mucho gusto.
Iván.
Mais ça c'est un nom russe.
C'est un hombre que me pusieron una vez. ¿Sabes que este caserío? Es un caserío, una comunidad que se hizo en la lucha revolucionaria.
Bon, ici c'est un nom qu'on m'a donné, parce que vous savez, ici c'est une communauté qui s'est créée sur une lutte révolutionnaire. Et c'est un surnom qu'on m'a donné.
Se fundó aquí un partido que se llama Partido Comunista de Venezuela.
Et ici on a créé le Parti Communiste du Venezuela.
Por ahí, 1943.
Dans les années 43 à peu près.
1943, por ahí.
1943, c'est ça, oui.
D'accord. Et votre père vous a donné ce prénom?
Y su padre lo dio. Sí.
Mi padre fue militante permanente desde muy muchacho
en esa organización.
Genial. Alors, mais vous étiez des paysans ou des ouvriers?
Campesino.
Paysan.
Viene de una familia muy pobre.
Y venía de una familia très, très pobre, del estado de Lara.
Aquí se encuentra con un grupo de hombres que conforman el Partido Comunista de Venezuela.
Y sí, c'est là qu'il a rencontré les gens qui ont voulu fonder le Parti Communiste du Venezuela.
Se formó esta comunidad.
Y c'est comme ça qu'on a créé cette communauté de
ce village. Que ya venía de luchas anteriores.
Y qui en fait a été le rassemblement de luttes antérieures.
De la guerra de la independencia.
Oh, ça remonte au moins à la guerre de l'indépendance.
Y la guerra federal.
Y la guerra federal.
Federal.
Bien sûr, qu'il y a toute une histoire derrière ça.
Una contradicción que viene de la época de la conquista.
Ça vient d'une contradiction qui remonte finalement à l'époque de la conquête.
Es la lucha de los indígenas contra los invasores españoles.
Il y avait déjà des grandes luttes des indigènes contre les envahisseurs espagnols.
Y que se levantan en unas tribus que eran las tribus Jirajara, que eran parte de una nación.
C'est les indiens Jirajara qui faisaient partie déjà d'une grande nation indienne qui se sont soulevés. Et d'autres tribus en fait.
Vous réclamez des Indiens encore, toujours, dans votre esprit?
Yo me reivindico como indígena.
Moi, je me revendique comme un indigène.
Et les filles aussi?
Claro.
Bien sûr.
Claro.
Nous aussi, on se revendique comme ça.
Claro.
Alors voilà, on s'en doutait un peu, bien sûr. Il y a une histoire à tout ça. Et Ivan, rien que son nom s'en dit assez long, remet les choses en perspective. C'est sa perspective, c'est une perspective. Mais vu d'ici, on dit bon Chavez. Mais faut pas oublier que Chavez touche les Vénézuéliens par son physique même. Parce que il a une part de sang indien, parce qu'il a aussi une part de sang noir, et que tout ça est très important pour les Vénézuéliens. Et c'est ce que nous raconte Ivan.
Chavez no es comunista.
Non, Chavez n'est pas comunista.
C'est vrai. Nationaliste.
Il est nationaliste.
Bolivariano.
Bolivarien.
Porque no es en el sentido de lo que éramos nosotros anterior.
Il n'est pas comme on était nous avant, c'est sûr.
Porque mira, hay una cosa, son etapas históricas.
Ça, c'est une étape historique.
Los indígenas recogían el planteamiento de la defensa de su territorio como indígenas.
Les indiens, au départ, ils se contentaient de défendre leur territoire face à l'invasion.
Los negros en iguales condiciones por tener una república.
Les noirs se sont battus pour avoir une nation, pour avoir une république.
Y los españoles
indudablemente, que es la otra parte que viene, bueno, por imponer la dominación.
Entonces, son los tipos que imponen la dominación.
Y eso es muy, muy importante porque eso recoge. Luego vienen los acontecimientos, 300 años de colonialismo español.
C'est de là que nace 300 años de colonialismo español.
Y luego nace el planteamiento de Bolívar.
C'est de là que nace el posicionamiento de Simón Bolívar.
De la, de la independencia del imperio español.
Il veut se s'affranchir de l'Empire español.
Y que se gana la guerra a ese imperio. Entonces, esa es toda la tradición cultural.
Voilà ce qui est le cheminement culturel de ce peuple.
Yvan, au niveau d'un village, ici vous êtes combien dans la ville?
Acá hay alrededor de 3000 habitantes.
Là, il y a à peu près 3000 habitants.
3000 habitants. Alors, 3000 habitants. Tout le monde est chaviste ici.
Sí, el 90% oui. Chavista.
90% disons, est chaviste.
Et alors les 10%, pourquoi ils sont pas chavistes?
Porque está allí el trabajo nuestro de ganarlos para la revolución.
Ah ben ça c'est notre boulot maintenant, on n'a plus qu'à les convaincre de les gagner la révolution.
Hoy soy miembro del Movimiento Quinta República.
Aujourd'hui je suis membre du mouvement pour la 5e République.
Y estoy en las organizaciones sociales como las cooperativas.
Estoy très actif dans les coopératives et les organisations sociales.
Estoy actuando en estos momentos en dos cooperativas.
Là, je suis en train de travailler dans deux coopératives personnellement.
La cooperativa Aracal.
La coopérative qui s'appelle Aracal.
Y la cooperativa Siaje.
Y la cooperativa s'appelle Siaje.
La cooperativa Aracal es una respuesta a los terratenientes.
Aracal, c'est une manière de s'opposer aux propriétaires de terrain.
Aquí, por ejemplo, Camunare es un asentamiento campesino.
Camunar, c'est une occupation de terre.
Un asentamiento campesino, donde tenemos 1.600 hectáreas.
On a 1.700 hectares.
Que eran de los terratenientes de luchas anteriores.
Qui appartenaient aux grands propriétaires terriens qu'on avait arrachés dans les luttes antérieures.
D'accord. Et vous êtes en train de les attribuer à des familles.
La tienen campesinos parceleros. A parcelado, como dicen.
Voilà, c'est des paysans qui ont des parcelles qui leur sont attribuées.
Con un promedio de 5 hectáreas por familia.
À peu près 5 hectares, une moyenne de 5 hectares par famille.
D'accord. Alors là, ils sont dans la légalité maintenant.
Sí, las tierras fueron entregadas legalmente a la familia.
Légalement, elles ont été données à ces familles-là.
A través de esa lucha de conquista que se originó
acá. Après les avoir occupés, leur ont été attribuées.
La lucha continúa aún más con más razón ahora. Que tenemos un gobierno revolucionario.
Bueno, continúa d'autant plus que maintenant on a un gobierno revolucionario.
Y que el movimiento campesino está más fuerte, mejor organizado.
Y que el movimiento paysan es
con mayor fort, apoyo
organizado.
Mayor apoyo del pueblo.
Avec en plus un soutien populaire important. Quoi.
La tengo.
Laquelle tu veux que je chante? Celle que tu veux, répond Wordling. Il dit, mais celle-là, je la connais pas.
Aïe.
Arrímese más pa' acá, aquí donde el sol calienta. Si usted estaba acostumbrado andar dando volteretas y ningún daño le hará estar donde las papas queman. Y ningún daño le hará estar donde las papas queman. Usted no es nada, no es chicha ni limona. Se lo pasa manoseando caramba, zamba su dignidad. Usted no es nada, no es chicha ni limona. Se la pasa manoseando caramba, zamba su dignidad.
Alors en route pour Santa Lucia, dans un tout petit village où nous attendent des paysans qui occupent cette coopérative, des paysans qui sont en lutte contre les grands propriétaires terriens et qui se sont organisés et qui espèrent obtenir enfin, après des décennies de lutte, hein, on a bien compris à travers ce que nous dit Ivan que là, l'histoire ne date pas d'hier, le combat ne date pas d'hier, et qui espèrent que cette fois-ci, ça y est, grâce à ce nouveau gouvernement, ce nouveau gouverneur, parce qu'ils ont élu récemment un gouverneur chaviste, et ben enfin ils touchent à cette terre promise depuis si longtemps. Et là, ils nous attendent donc Et celui qui nous attend s'appelle Zapata. C'est extraordinaire, ce type s'appelle Zapata, alors que la chanson qu'on vient d'entendre, que nous a chanté Alexander, s'appelle Zapata de la conscience. Zapata, les chaussures de la conscience. Et le gars qui est là, qui nous attend sous ces arbres, avec le village tout autour, s'appelle aussi Zapata.
Alors tu t'appelles vraiment Zapata?
Si. Por aquí no cargo la cédula, pero yo soy Alonso Zapata.
J'ai pas ma carte d'identité, mais je vous le dis, je m'appelle Alonso Zapata.
Hijo de padre y madre campesino.
Je suis fils de paysan.
Et tes parents se battaient déjà?
Por supuesto, mi padre inició, mi padre fue el fundador de la lucha.
Oui, mon père un peu était à la fois au départ de la lutte.
Fondateur de la lucha.
Sí, precursor de la lucha de la tenencia de la tierra en el estado.
Oui, c'était un précurseur de la lutte pour la propriété de la terre dans l'état.
Hoy tiene 80 años.
Mais il a 80 ans.
Alors là, on est dans ce village, tout petit village, au milieu d'une plaine de canne à sucre et de maïs, et avec des montagnes qui montent de chaque côté, mais très abruptes, des montagnes couvertes de forêt. Il fait assez chaud, il y a une brume qui envahit peu à peu les montagnes, là. Où est-ce qu'on est exactement? Santa Lucia?
Bueno, aquí estamos en el sector Santa Lucia de la Hacienda Santa Catalina, frente al Monumento Natural María Leonce.
On est juste en face du Parc National de María Leonce. Voilà, c'est le secteur Santa Lucia de la Hacienda Santa Catalina.
Uh-huh. Esto es una empresa campesina colectiva.
C'est une entreprise paysanne collective.
Ajá, está aprobado para acá un recurso importante para la producción agrícola diversificada integral.
Voilà, on fait partie du plan de diversification de la production agricole.
À qui sont les terres ici?
Las tierras pertenecen al Instituto Nacional de Tierra.
Ça appartient à l'Institut National des Terres.
INT.
INT, es Instituto Nacional de Tierra, está creado a partir del año 2000.
L'Institut a été créé en l'an 2000.
Y nos entregaron las tierras a partir del 3 de mayo del año 2003.
Et nous ont rétrocédé les terres à partir du mois de mai 2003.
Et avant 2000, elles appartenaient à qui les terres?
Antes las usurpaba el Central Matilde, uno de los monstruos más poderosos de la terrofagia de Yaracuy.
Voilà, alors les terrofages, un des monstres les plus importants des terrofages, c'est le mot qu'il a employé, qui s'appelait la Matilde, qui avait usurpé ces terres-là.
Usurpó en Yaracuy 42 000 hectáreas, en municipios del estado.
42 000 hectares ont été usurpés par cette multinationale.
Desde el año 1946.
Depuis 1946.
Produjeron azúcar, cachaza, alcohol.
Ils ont produit du sucre, bien sûr, mais aussi de l'alcohol de canne, de la cachaza. Uh-huh.
Toda la producción salió por el pueblo Chivacoa y nunca le aportaron un grano de arena a Chivacoa.
Tout partait par le village d'à côté et jamais ils ont porté un kilo de sucre à Chivacoa.
Así que nosotros nos dedicamos desde el 14 de junio del año 1973 a rescatar las tierras.
Y luego comenzó el 14 de junio de 1973 a nous battre pour récupérer ces terres.
1973, a partir de 1973, vous êtes battus.
Sí, esta empresa campesina está fundada desde el 14 de junio de 1973.
Ouais, c'est bien la date de la formation de notre entreprise agricole.
Qui s'appelle comment?
Empresa Campesina Santa Lucía San Juan.
Entreprise agricole Santa Lucía San Juan.
30 ans, plus de 30 ans de lutte. Et ils espèrent que cette fois-ci, ils touchent au but. C'est quand même, il y a une patience, il y a un entêtement chez ces paysans qui est tout à fait bouleversant et qui mérite quand même un tout petit peu d'attention.
Muchos han muerto y otros estamos vivos. Muchos se han ido y otros han llegado.
Il y en a qui sont morts, il y en a qui sont partis, d'autres sont arrivés, mais nous on est là et on est vivants.
En la lucha han quedado dos muertos. Uno en el año 1978, una mujer embarazada a manos de ellos.
On a eu deux morts ici, donc une femme enceinte qu'ils ont assassinée.
Y uno el 4 de noviembre del año pasado.
Et le deuxième, il y a pas longtemps, le 4 de novembre de l'année dernière.
Nos lo mataron aquí, acribillado.
Criblé de balles, ici, là.
Tenemos que decir lo siguiente, que las muertes de nuestros dos compatriotas han quedado impunes.
Il faut bien dire une chose, c'est que la mort de nos deux amis sont restés absolument impunis.
Que la justicia a favor de los pobres no camina.
La justicia no marche jamais quand elle doit aller dans le sens des pauvres.
Que los asesinos de nuestras víctimas están libres.
Que les assassins de nos camarades sont toujours libres.
Los actores materiales e intelectuales están libres.
Ceux qui ont commandité le crime sont toujours libres.
Aquí en tiempo récord se atraparon los culpables.
Ici, on a réussi à attraper le coupable.
Pero la aliación de la Fiscalía y el Ministerio Público en el Estado y los jueces del circuito penal.
Mais entre l'alliance du procureur et des pouvoirs publics et de l'État et les juges de la Cour nationale.
Permitieron que salieran los vagos.
Ils se sont débrouillés pour qu'ils soient libérés.
Queremos internacionalizar esto y que se haga justicia.
Et ça, on veut que ça sache partout dans le monde et que la justice se soit rendue.
Sin embargo, nosotros seguimos denunciando y seguimos luchando por esos beneficios.
Se battre pour dénoncer ça.
Pero es lamentable decir que el presidente de la República está siendo traicionado.
C'est lamentable, mais il faut le dire. Mais le président de la République le savera pas, mais il est trahi.
Porque hay mucha burocracia.
Y hay una burocracia enorme.
Que Chávez n'a pas réformé.
Sí, Chávez ha hecho todo lo posible.
Il a fait ce qu'il a pu pour la réformer, mais...
Pero ante esa desidia no podemos cruzarnos de brazos.
Mais c'est pas parce qu'il y a des blocages que nous on peut croiser les bras, hein. Faut qu'on continue.
Hay que avanzar.
Faut qu'on continue.
Hay que seguir luchando.
Il faut toujours continuer à se battre.
Nosotros estamos hechos a base de un sacrificio.
No, se construye sobre el sacrificio.
Sin embargo, quiero decir algo, a lo mejor personalmente.
Mais je voudrais quand même dire quelque chose, personnel.
Mi padre, para mantenerse en la lucha, a raíz del año, de los años 70, tuvo que someternos al hambre a los hijos.
On a dû avoir faim pour que mon père puisse continuer à se battre. On a dû se priver de tout pour pouvoir continuer à se battre à partir des années 70.
Y nos mantuvo con un patio en una granja integral.
Il nous a élevés dans la cour d'une grande ferme.
Por eso es que nosotros defendemos y amamos.
C'est pour ça que nous on défend et
qu'on aime. Los huertos familiares.
Les jardins familiaux, parce que sans ça, on n'aurait pas pu survivre.
Sí. Y así, mi madre y mis padres nos criaron a 8 hermanos.
On était 8 à la maison, et c'est comme ça, grâce à un petit jardin familial dans une grande ferme, qu'ils ont pu nous alimenter.
Nos educaron y nos formaron en la lucha.
Ils nous ont alimentés, mais ils ont aussi éduqué et nous ont formés à la lutte.
Nosotros no nos formamos en una mesa con vajillas de plata.
Oui, nous, on n'a pas été formés autour d'une table avec des couverts en argent, quoi.
Sino que pasando también muchas necesidades.
Sí, en ayant faim, en ayant beaucoup de besoins qu'on a...
Pero siempre consciente de que nos asistía un derecho moral, un derecho legal y un derecho social.
On s'est toujours appuyé sur le fait qu'on avait des droits moraux, légaux et sociaux.
Seguiremos produciendo y seguiremos trabajando con honor.
On continuera a produire, a travailler dans l'honneur et la fierté.
No pierdo las esperanzas de un día volver a montar la potra que me tumbó. Hoy se encuentra pensativa, dice que no está conforme con ese que la amarró. No pierdo las esperanzas de un día volver a montar la potra que me tumbó. Hoy se encuentra pensativa, dice que no está conforme con ese que la amarró. ¿Y cómo me voy a olvidar si el primero he sido yo? Que le eché una travesía, le solté un lazo de amor. Yo la llevé paso a paso al corral de la pasión. Hoy se encuentra pregonando que de mí ya se olvidó. El consuelo que me queda fue que bastante lloró. Ella se fue con el lazo, pero el hierro le quedó.
Bueno, podemos decir que aquí tenemos en Santa Lucía muchos potenciales.
Ici, on a quand même beaucoup de potentialités dans le secteur de Santa Lucía.
Sí, 540 hectáreas de tierra de primera calidad.
540 hectáreas de tierra
de primera calidad, de buena calidad.
Ahí en Santa Lucía, 8 pozos subterráneos funcionales.
8 captages d'eau en état de marche pour arroser partout.
Hay 5 lagunas para la cría de peces.
Y hay 5 petits lacs artificiels. On peut même faire un peu d'aquaculture.
Y tenemos que ser capaz de nosotros producir nuestras propias semillas.
Ce qu'on veut nous ici, c'est finir par produire nos propres semences.
Mais qu'est-ce que vous allez faire pousser?
Nosotros tenemos viveros de pimentón,
de poivrons,
de tomates,
de tomate,
lechosa,
de la lechosa qui est un fruit
parchita,
la parchita que
estamos sembrando caraota,
y un semillero de la caraota,
frijol blanco,
si haricot noir la caraota,
maíz amarillo.
Du maïs jaune.
Ají.
De l'ail.
A berenjena, así como de otro.
De l'aubergine.
Eso a nuestras propias expensas.
Ça, c'est nous qui le finançons nous-mêmes, ça, c'est en autoproduction.
Estamos proponiendo dejar un espacio para una escuela técnica.
Nous, on a déjà prévu un espace pour la création d'une école técnica.
Donde nuestra gente se prepare.
Où nos gens pourraient aller se former.
El presidente nos apoyó el 3 de mayo con un tractor.
Le président nous a soutenu en nous accordant un tracteur le 3 mai.
Nosotros a través de la autogestión hemos comprado 3 tractores más.
Y gracias al sistema autogestionario, on a pu acheter 3 tractores de plus.
Digamos, nos recortamos la alimentación para comprar artículos, maquinaria, implementos, para comprar implementos.
Ça veut dire simplement qu'une partie de la production, au lieu de se la distribuer, on l'affecte à l'achat de matériel collectif.
Bueno, todos estos potenciales son dignos de desarrollar.
Tout ça mérite qu'on le développe, un gros potentiel qu'on peut développer.
Sin escatimar ningún tipo de esfuerzo.
Et sans, par contre, sans épargner aucun effort.
Pensamos procesar la materia prima que seamos capaces de desarrollar.
C'est transformer notre matière première et faire du produit fini.
Donc vous voulez diversifier la production.
Hay la necesidad imperiosa de diversificar la producción.
Une nécessité impérieuse de diversifier la production.
Son proyectos donde pensamos integrar a gente que no forman parte de la cooperativa.
C'est des projets qui sont assez importants pour qu'on puisse songer à intégrer des gens qui aujourd'hui ne font pas partie de la coopérative.
Es decir, generar 1000 empleos indirectos.
On peut même envisager de créer 1000 emplois indirects.
Quand tu dis qu'il est possible de créer des emplois, ça veut dire que ce serait un moyen de limiter l'exode rural.
Sí, por supuesto. Eso tratamos. Que la gente vuelva al campo.
No solamente eso, mais on essaie de faire qu'ils reviennent aux gens.
Y a través de las viviendas y los beneficios, la insertación del campesino en el campo.
Voilà, ce qu'on veut, c'est à travers l'amélioration de l'habitat, une meilleure intégration des gens qui travaillent dans la campagne.
Sin embargo, sentimos que con lo que hemos logrado bastante.
Mais on a quand même obtenu beaucoup.
Hemos pasado por muchos traumas, pero ya los vamos, ya vamos en la etapa de superación.
Des moments vraiment très très durs, très traumatisants, mais on est déjà en train de les surmonter quand même.
Sin embargo, nosotros aquí, con la gracia de Dios, podemos producir para el autoconsumo.
Et pourtant, grâce à Dieu, on arrive à produire pour notre autoconsommation.
Combien vous êtes ici?
Somos 90.
On est 90 ici.
90. Les trois chiens au moins.
Le chien chaviste et le chien anti-chaviste.
Los techos donde vivimos, estamos a riesgo de que nos caigan encima.
On risque de prendre les toits dessus tellement c'est un mauvais état.
Le hacemos una toma a los sitios donde vivimos.
Nous montrerons faire visiter la où on vit.
Nuestros niños duermen en el suelo.
Nos enfants dorment par terre.
Nuestras mujeres tienen que parir aquí. Porque no hay...
Les femmes doivent accoucher ici, elles peuvent même pas aller dans un centre de santé.
Cuando nuestra gente se enferma, hay que cargarlos en el lomo para allá porque no tenemos un transporte.
On a quelqu'un qui est malade, on est obligé de le prendre sur le dos pour l'amener chez le médecin.
Queremos mostrarle en primer lugar cómo duerme y vive nuestra gente.
D'abord, on veut vous montrer comment les gens ici vivent et dorment.
Alors,
vamos, pues.
Vamos.
Ah, voilà une maison, ouais, très pauvre. Il y a un gars qui est en train de réparer son vélo. Et là, il nous lève... juste un rideau. Et puis derrière le rideau, il y a un matelas, un vieux matelas très très fatigué. Il y a un vieux frigo très 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 fatigué. Et voilà, ça c'est une maison.
El techo está que se cae.
Le toit s'effondre.
Le toit c'est trois tôles sur des morceaux de bois.
Nuestra gente merece estar mejor, son combatientes revolucionarios.
Nos camarades sont des révolutionnaires, ils mériteraient quand même de vivre mieux que dans cette situation.
Là, les portraits de Bolivar, on ne peut pas se les... On peut pas se les acheter, alors on les dessine, mais vraiment au crayon, quoi, sur le mur. Voilà. Vous êtes des anciens, vous en avez vu de toutes les couleurs.
Oui, on lutte bastante. Oui, on s'est pas mal battu déjà, oui.
Et vous aussi?
Combien?
Campesino Cacharraja.
Vous, Campesino
Cacharraja.
C'est un vrai paysan de souche, de pure souche.
Qu'est-ce que c'est les luttes? Racontez-nous les luttes que vous avez...
Ah, ça va beaucoup, imaginez. Vous imaginez, vous imaginez pas, il y en a eu tellement. 58 ans en train de lutter, ça fait beaucoup, quoi.
Est-ce que ça valait le coup de lutter?
Bien sûr que oui. C'est pour ça qu'on est là encore. Pour l'instant, ça va un petit peu mieux. Il se trimballe avec son gros flingue, hein, quand même.
Qui ça?
Ben, Alonso. Il est armé, il est obligé d'être armé.
T'as un flingue?
Solo para defendernos.
Juste
pour hombre precavido vale por dos.
Un homme prudent en vaut deux.
Hemos sido perseguidos.
On a été persécutés et donc il soulève sa chemise et on voit la crosse du pistolet qui sort de son jean.
Y no quiero que me agarren desprevenido.
Je veux pas qu'on m'attrape par surprise.
Así que estamos expuestos pero también dispuestos.
On est exposé mais on est prêt.
Bon.
Pero nuestra mejor arma es la constitución. Con esa hemos derrotado a los enemigos.
La mejor arma es la constitución y avec celle-là on a vraiment écrasé les ennemis.
Y sabemos utilizar esas armas.
Et on sait utiliser ces armes-là.
Voilà, et tout le monde nous fait signe avec le petit livre bleu de la Constitution. C'est ça qui
C'est dans cela que réside tout l'espoir de ces paysans du Venezuela. Merci à tous. Merci donc à Zapata, Alonso Zapata, à tous ceux qui étaient avec lui dans cette coopérative Santa Lucia. Merci à Ivan de Comunare Roro, à notre ami Maurice Lemoine, à Wendy Werling et à tous. Olivier Rieutor et Olivier Daligo étaient à la technique aujourd'hui. L'équipe de la Bastille Suisse, Antoine Chao, Yann Schuker, Raphaël Mouter de Pascal Le Pascariello. Le numéro du répondeur, c'est-à-dire du crogneur de la Basse UJ Suisse, c'est le 01 56 40 37 37. Et c'est Christophe Humbert qui en a la charge. On se retrouve demain à 17h pour la Basse UJ Suisse, toujours au Venezuela ou à Venezuela. Dans 1 minute et 33 secondes de réclame, vous retrouvez Frédéric Bonneau et Charivari. Salut!